David Saint-Jacques, bonjour.
Bonjour, bonjour, comment ça va?
Ça va très bien vous-même?
C'est une très bonne journée.
Un plaisir de vous parler réellement, David. Très heureuse que vous ayez eu un petit trou pour nous parler parce qu'on sait que vous êtes en préparation pour ce départ novembre 2018 pour l'agence, la Station spatiale internationale plutôt. David, vous avez un parcours extrêmement riche, très complet, qui vous a permis de réaliser ce rêve d'enfance, celui de devenir astronaute et d'aller dans l'espace. Donc, vous avez plusieurs expertises, mais aujourd'hui, je m'intéresse à votre parcours de médecin. Vous avez pratiqué la médecine dans le Grand Nord québécois, plus précisément au Nunavik, également dans les camps palestiniens au Liban, après les événements du 9-11. Comment ces expériences-là, ce parcours, ces connaissances vont pouvoir nourrir cette mission, autant dans la préparation que sur place, là, dans 2 ans?
Effectivement, c'est une des grandes richesses dans ma vie, là, cette chance-là que j'ai eue de travailler dans le monde médical et surtout dans des environnements un peu austères ou avec peu de ressources. Je pense que même si je m'en rendais pas compte à l'époque, c'était comme déjà un pré-entraînement dans l'art de se débrouiller avec ce qu'on a et de prendre ses responsabilités.
Oui. D'ailleurs, David, vous associez souvent la pratique médicale en communauté éloignée, comme vous l'avez effectué là, lors de ces missions en communauté dans le Grand Nord québécois, là, au Nunavik, et à celle de l'espace. Pourquoi il y a cette espèce de parallèle-là qui se fait pour vous?
Alors ça, en fait, c'est très simple. C'est que c'est le même problème qu'on a à résoudre dans les deux cas. C'est-à-dire s'occuper de la santé des gens qui vivent très, très loin d'hôpitaux ou de centres tertiaires ou de spécialistes. Donc, qu'on soit dans un petit village sur la baie du Son ou à bord de notre Station spatiale internationale, on a très peu de ressources. Il faut réfléchir longtemps d'avance à ce qu'on va amener avec nous au cas où. On ne peut pas tout amener. On ne peut pas avoir un bloc chirurgical avec nous, par exemple. Donc, il faut réfléchir à ce qu'on veut pouvoir traiter. Une fois qu'on est sur place, il faut avoir des technologies qui nous permettent de demander des conseils, au moins peut-être avoir ce qu'on appelle de la télémédecine, c'est-à-dire, par exemple, avoir un collègue plus spécialisé qui nous guide dans l'utilisation de la machine échographie, par exemple. C'est tout ce qui se développe pour aider les astronautes à rester en santé s'applique directement à la pratique médicale en région éloignée. Alors, pour moi, c'est un de mes dadas, si on veut, là, d'avoir la chance de participer à ça pendant que je serai à bord.
Et, bon, d'ailleurs, dans 2 ans, lorsque vous serez à la Station spatiale internationale, est-ce que c'est vous qui va être amené ou responsable des soins auprès de vos collègues?
Oui, il y a toujours à bord ce qu'on appelle un officier médical. Mm-hmm. Il n'y a pas toujours un médecin à bord, mais il y a toujours quelqu'un qui reçoit une formation supplémentaire. Mais puisque moi, je suis déjà médecin, ça a des fortes chances que ce soit moi qui ai ce rôle-là. Il faut bien réaliser que tous les astronautes reçoivent une formation de médecine d'urgence de base. Hein.
Okay.
C'est pas une formation standard, mais on essaie d'en faire un peu comme des ambulanciers, si on veut, mm-hmm. capables de faire les premiers gestes qui sauvent la vie, capables d'assurer les soins d'extrême urgence. Donc, tout le monde reçoit ce niveau-là. Également en médecine dentaire, en passant, pour répondre aux urgences dentaires.
Oui. Qu'est-ce qui change? Quelles sont les données qui changent de pratiquer la médecine sur Terre et dans l'espace?
Alors, il y a l'isolation, mais ça, comme on le dit plus tôt, on peut voir.
David, vous êtes encore là?
Entendez-vous?
Oui. Allô? Oui, oui, okay. Ça a coupé un peu. Oui, continuez.
Je reprends. Donc, effectivement, il y a l'isolation qui a un parallèle sur Terre. Mais ce qui est très différent, c'est l'environnement dans lequel on est. Alors, vraiment, un environnement avec beaucoup de radiation. Ça, à long terme, ça peut être une source, un risque de cancer. Mais c'est surtout l'absence de gravité, l'absence des effets de gravité qui est d'abord, c'est quelque chose, en guillemets, c'est le fun, parce qu'on flotte, mais c'est pas très bon pour la santé, malheureusement. Sur Terre, on a évolué sur Terre, les êtres humains, pendant des milliers, des millions d'années en présence de la gravité. Et lorsqu'on enlève l'effet de la gravité, tous les systèmes de notre organisme s'en ressentissent. Alors, par exemple, notre corps est assez conservateur. Si tout est très léger, soudainement, on n'a pas besoin d'avoir des os très solides ou d'avoir des muscles très forts. Et tout ça disparaît. Et ensuite, notre système cardiovasculaire est un peu débalancé par le fait qu'il n'y a pas soudainement, il n'y a plus d'aide pour envoyer du sang au pied.
Ah donc, oui, pour,
hein? Oui, hein, c'est ça. Par exemple, par contre, on est habitué nous, à pousser plus fort pour envoyer du sang à la tête, mais là, en absence de gravité, ça marche plus. Il faut enlever ce biais-là. Il y a des problèmes avec le système immunitaire qui sont un peu mystérieux toujours, des problèmes avec le système visuel aussi qui sont mystérieux, des problèmes évidemment du système de l'équilibre qui est complètement, on doit finalement débrancher le système de l'équilibre en absence de gravité. Donc, c'est difficile de s'adapter à l'absence de gravité. Ça prend quelques jours, quelques semaines selon les gens. Et ça vous, c'est encore pire de se réadapter à la gravité une fois le retour sur Terre. Alors, il y a plein de problèmes de santé aux astronautes. Et ce qui est intéressant, ce qui est une opportunité pour la recherche médicale, c'est que tous ces problèmes de santé qui affectent les astronautes, ça ressemble à des vraies maladies.
Donc, pour vous, c'est une opportunité aussi d'aller faire ces expériences médicales dans l'espace et de ramener une certaine forme d'expertise après votre retour ici sur Terre.
Oui, par exemple, je dirais plein d'exemples au hasard, mais par exemple, il y a une expérience à bord où on regarde les effets de la pesanteur sur la moelle osseuse. Hein, parce que soudainement, quand il n'y a pas de gravité, quand il n'y a pas de stress sur les os, on se rend compte que la moelle osseuse devient un peu paresseuse et les astronautes deviennent tous un peu anémiques. Et on se rend compte que ça ressemble à un problème qui afflige les gens qui sont couchés, alités longtemps à l'hôpital sur Terre. Mais c'est difficile de l'étudier sur Terre parce que c'est tous des gens très malades.
Oui.
Mais dans l'espace, c'est sur des astronautes jeunes, en parfaite santé. C'est très facile, de manière isolée, d'étudier ce phénomène-là et de le comprendre de manière beaucoup plus efficace. Et donc, c'est un exemple d'une application là où ça vaut vraiment la peine de faire de la recherche médicale en orbite. C'est comme les sujets d'études parfaits. Oui. Et c'est la spécialité du Canada.
Oui, en plus, ça peut être une fierté pour nous, ça.
Oui, effectivement. C'est comme une niche de la recherche en orbite du Canada. On fait surtout de la recherche à caractère médical. Donc ça, c'est un côté, le fait que les problèmes que développent les astronautes ressemblent à des maladies. Il y a le côté télémédecine, dont on a parlé plus tôt, qui est comment assurer, sur un point de vue technologique, comment aider le médecin qui est à bord. Ça ressemble aux problèmes qu'on a beaucoup au Canada, d'aider les infirmières ou les médecins qui sont isolés là, dans des petites communautés. Oui. Ça, c'est la même chose. Donc, c'est comme deux pans là, de la recherche médicale qui m'intéresse particulièrement.
Et j'imagine qu'une fois sur place, à la Station spatiale internationale, les habitudes de vie changent un peu, David. C'est-à-dire que le sommeil ou la nourriture, là, ça ne doit pas se passer de la même façon.
Oui, toute la vie est différente. Dès qu'on enlève les effets de la gravité, c'est assez surprenant tout ce qui change. Hein. Juste imaginer comment, par exemple, comment se laver.
Oui. Oui.
Comment se laver? On peut pas prendre de douche, là. Il faudrait courir après l'eau avec un aspirateur. Pas nulle part. Bon, on se lave un peu à la débarbouillette, là, comme on laverait un nouveau-né. Comment aller à la toilette?
Oui.
On fait, hein? C'est comme uriner dans un aspirateur. Je vous laisse imaginer le reste.
Oui.
Après ça, on peut pas se permettre de jeter toute cette eau-là. Alors, une immense machine qui recycle notre urine, qui recycle notre respiration, qui recycle notre sueur, qui recycle toute l'eau qui est à bord. Un peu comme la planète Terre le fait pour nous. Hein. Toute l'eau qu'on boit chaque jour, c'est de la vieille eau. Il n'y a pas de nouvelle eau sur Terre, mais sur des millions d'années, c'est recyclé par Mère Nature. On reproduit ça avec des machines en orbite. Comment dormir dans l'espace? Si on se met dans un lit, on va flotter, on va en sortir. On s'attache au mur dans un sac de couchage. Il y a plein de détails pratiques qu'on a changés. Mais ce qui est impressionnant, c'est que, évidemment, la capacité d'adaptation de l'être humain, c'est extraordinaire. Et après quelques jours, on est devenu des habitants de l'antique, des habitants d'un monde sans gravité. Un autre détail amusant, évidemment, on peut pas marcher en orbite, hein, parce qu'on flotte. Alors, on se déplace avec nos mains.
Ah oui, OK, ouais, sur les mains.
Oui, c'est comme sur l'escalade. On agrippe des poignets, puis on se déplace comme ça, et on sert dans nos pieds pour transporter les objets. On inverse le rôle de nos membres.
C'est fascinant, David Saint-Jacques, de vous entendre. Maintenant, bon, vous allez partir très bientôt là, pour cet entraînement, 2 ans d'entraînement avant de quitter à bord de Soyouz pour la Station spatiale internationale. En quoi consiste cet entraînement? Parce qu'on le comprend, David, lorsqu'on vous écoute, ça prend une santé de fer pour aller dans l'espace.
Oui, effectivement, on faut partir. Vu que c'est pas très bon pour la santé, il faut partir le plus fort possible.
Oui.
Donc, tant physiquement que psychologiquement, mais surtout techniquement. C'est quand même dangereux ce qu'on fait là-haut. Le défi principal, ça reste un défi technique. Alors, quand on parle d'entraînement, faut pas juste penser au gymnase, c'est plutôt pensez plutôt à une salle de cours ou un simulateur où on pratique les procédures d'urgence. Moi, dans mon cas, ce qui va m'occuper beaucoup dans les prochaines 2 ans et demi à venir, c'est que je vais être le copilote de la fusée Soyouz qui va nous amener à bord. Donc, je dois aller à la Cité des Étoiles, qui est le nom du centre d'entraînement russe pour astronautes à Star City, donc près de Moscou, et pour suivre en russe les cours de formation, le pilotage de la fusée Soyouz. Ça va être à peu près la moitié de mon temps, de mon horaire là, d'ici le décollage. Après ça, bien, toutes les expériences scientifiques que je devrais mener à bord ne sont pas encore très bien définies, mais à mesure que le temps passe et que le décollage va s'approcher, ça va être de plus en plus clair. Et ces expériences-là, bien, je devrais rencontrer les scientifiques qui sont derrière, les comprendre, les pratiquer, comprendre l'équipement. Puis après ça, bien, une fois que l'équipage sera nommé au complet, on devra tous ensemble s'entraîner aux procédures d'urgence. Puis ça, c'est une autre grosse partie de l'entraînement. Donc, ça va se faire prochaines 2 années et demie, un peu autour du monde, entre Houston, où il y a la NASA, à Moscou, pour l'agence spatiale russe, au Japon, en Allemagne, pour l'agence spatiale européenne, et puis ici au Canada, pour l'agence spatiale canadienne.
Et tout ça, David, avec une attention particulière à votre santé, parce que d'ici 2 ans, évidemment, on ne sait pas ce qui peut se passer, et c'est quand même une valeur assez importante pour pouvoir effectuer ce fameux départ-là.
Ah, c'est notre... pas seulement pour les astronautes, hein, pour tout le monde, c'est notre trésor. Notre corps, c'est notre outil principal, c'est notre plus grande ressource. Donc, si je m'épuise, je me fatigue, je me fais mal ou je tombe malade, je viens de me tirer dans le pied. Hein. Il n'est pas question. Et d'ailleurs, pour un astronaute, c'est encore peut-être plus vrai parce qu'on a à chaque année à passer un examen médical absolument sans pitié.
Avec des analyses sanguines, j'imagine.
Des analyses sanguines, des tests, des scans, tout ce que vous pouvez imaginer. Ouais. Un test athlétique aussi pour vérifier qu'on est capable de supporter le stress du décollage et de la vie en orbite. Et donc, c'est un peu l'épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête de chaque astronaute à chaque année. La possibilité, ça existe toujours, d'être disqualifié pour raison médicale. Donc, c'est pour ça qu'on est particulièrement attentif à notre santé.
En terminant, David Saint-Jacques, avez-vous des trucs, des façons de gérer ce stress? Parce que j'imagine que oui, il y a une pression. Tous les yeux, non seulement ici au Québec, au Canada, mais du monde, sont en ce moment arrivés sur vous et cette mission.
Ah, il faut apprendre à... Il faut apprendre à cliver dans sa tête. Il faut apprendre à se dire, ben, coudonc, je vis dans un aquarium, mais voilà, je suis comme je suis, là. Je fais, moi, mon rôle, c'est tellement possible. Je peux faire plus comme possible. Puis, je vais faire des erreurs, mais voilà, si je vais faire des erreurs, ça va arriver. Tout le monde va savoir, ben, je vais m'excuser, puis je vais me reprendre.
Ouais. C'est une grande.
C'est le track. C'est le track qui est notre meilleur ennemi, notre pire ennemi, dans le fond.
Oui. Et en même temps, un très bon moteur.
Un très bon moteur, parce que, et ça, je le dis souvent aux gens, une chose que j'ai appris, j'ai toujours peur. Je suis constamment très, très conscient des dangers, conscient des défis, et j'ai le trac, j'ai peur, mais pour moi, la peur, c'est juste un signe qu'on est lucide et qu'on réalise qu'il y a quelque chose de difficile ou de dangereux qui s'en vient.
Oui.
C'est pas une raison de pas le faire, la peur. La peur, c'est juste une raison de porter attention. C'est comme un signal d'alarme qui dit là, faut focusser sur ce qui s'en vient. Donc, une mission spatiale, bien évidemment, je serais bien naïf si j'avais pas peur de ça. Hein?
Oui.
C'est évidemment dangereux. Alors, tout ce que ça veut dire, c'est que va falloir que je m'attelle dans les prochaines années à étudier, à me pratiquer, à m'entraîner pour le jour du décollage, être en pleine confiance que je suis en pleine possession de mes moyens et je suis quand même en affaire.
Et à travers ces années, vous continuerez à nous inspirer, David Saint-Jacques. Je ne sais pas si on se reparlera d'ici novembre 2018, mais je vous souhaite un très, très bon voyage à bord de Soyouz et à la Station spatiale internationale.
Merci beaucoup. Ce sera avec plaisir si on peut se revoir, puis peut-être même en personne, qui sait.
Qui sait, ce sera un grand plaisir, un grand honneur. Merci, David Saint-Jacques.
Bye-bye, bonne journée.
Au revoir.